Et bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour Emmanuel.
Encore une fois, vous publiez une histoire de dingue. Si elle est inspirée de votre vie une fois encore, alors je pense qu'il faut vous aider ou vous mettre dans un musée. Vous n'avez pas vécu cette histoire quand même, si?
Ben, je ne l'ai pas vécu jusqu'au bout, c'est pour ça que je l'ai écrite. Mais l'inspiration, enfin le point de départ, oui, c'est la vie qui
vraiment
suggérée.
Alors, oui. Le point de départ, c'est la mère du narrateur, donc votre maman, qui est morte lors des obsèques de son cancérologue. Elle est heurtée par un cercueil, et avant de succomber à ses blessures, elle fait faire une promesse à son fils.
Oui, c'est-à-dire de garder son appartement en état et surtout de continuer à faire rouler sa voiture. Parce qu'elle a un rapport très fort avec cette voiture qu'elle bichonne comme une Ferrari depuis des années. En fait, une Renault Fuego des années 80.
C'est une voiture coupée, c'est un coupé, on va dire. Qui n'a pas eu un gros succès d'ailleurs.
Qui a été honteusement méprisée. C'était une voiture une voiture que j'ai conduite, ça. Ça a été les premières voitures. C'était un moteur en version turbo-essence qui était formidable, très confortable, mais qui paraissait vraiment comme un ringard dès le début. On ne sait pas pourquoi. C'était pas l'image Renault.
C'est vrai que c'était pas génial.
Vous prenez la Jensen Interceptor, elle ressemble beaucoup. Mais
c'est-à-dire qu'à l'époque,
avec l'arrière en bulle vitrée.
Il y avait la Renault Fuego et l'Alpine. Vous vous rappelez de la Renault Alpine?
Oui.
Et c'était juste deux mondes à l'opposé. Voilà. Et c'était vendu en même temps. Donc la Renault Fuego, elle faisait pas le figure.
Et donc voilà le narrateur qui exécute les dernières volontés de continuer de faire rouler cette voiture. Et puis, flash de radar, de vitesse, et il n'a pas pris le temps de changer la carte grise, et sa mère reçoit la contravention à titre posthume, et elle perd 2 points. Et puis,
il continue.
Une fois, ça recommence, et jusqu'au point où il se dit, et là, on est encore dans la réalité, c'est ce que je me suis dit moi-même à ce moment-là. Première réflexion, ma mère n'a jamais aussi mal conduit que depuis qu'elle est morte. Et ça, vous savez, les romans, pour moi, ça naît d'une phrase. Et là, c'est une phrase diapason. Et je me dis, bon, si je vais jusqu'au bout du truc, si je crois que c'est excès de vitesse, et qu'elle aura presque plus de points, elle risque de recevoir, à titre posthume, puisque l'administration la croit encore vivante, une convocation au stage de récupération de points. Alors là, je fais quoi? J'engage une sosie? Et là, j'ai pas fait dans la vie, mais je me suis arrêté.
Et alors, c'est ce qui se passe.
Et c'est ce qui se passe dans le roman.
C'est qu'il reçoit une lettre de la préfecture qui propose à sa mère de faire un stage de récupération de points. Elle n'est pas déclarée morte, pour la préfecture. Alors, c'est quand il va visiter sa tante dans une résidence pour personnes âgées qu'il croise une certaine Lucie Castagnole, chanteuse et comédienne à 16 ans, qui va se donner pour mission de remplacer sa mère à ce stage.
Oui, parce que c'est une comédienne à la retraite qui fait du spectacle de stand-up dans sa maison de retraite pour payer son loyer. Elle a connu la mère du narrateur qui venait voir sa sœur dans cet établissement. Elle se présente un jour devant l'auteur, puisqu'elle a su par une auxiliaire de vie cette histoire de permis, de stage de récupération de points, et elle vient offrir ses services.
Voilà.
Elle porte un tailleur de la mère qu'elle a récupéré dans les placards de la tante, et la perruque, puisque la mère avait coupé ses cheveux avant de commencer sa chimio, s'était fait faire une perruque avec ses magnifiques cheveux d'origine.
C'est glauque, Didier, quand même. C'est drôle et glauque à la fois, votre livre.
C'est la vie. C'est la vie. Je veux dire que la manière dont ma mère a vécu son cancer avec ce panache, c'est quelque chose qui est un cadeau formidable pour les survivants.
Mais ça, vous l'avez vécu, alors, du coup. C'est vrai, cette histoire.
J'ai vécu beaucoup de choses, oui.
Ouais.
Son,
vous dites pas
son
tout,
rapport avec la cuisine, c'est une cuisine extraordinaire.
Alors c'est ça, c'est que
jusqu'au bout, lorsqu'elle devait partir, parce que les derniers temps, je descendais beaucoup à Nice, m'occuper d'elle, et quand elle partait en séance de chimio, elle laissait des plats extraordinaires avec les étiquettes, température du four pour le réchauffer, tout ce qu'il fallait. C'est le mouvement même de la vie, c'est tout ce qui faisait son brio, son talent.
C'est ce que va faire.
Convoque à ce moment-là.
Ce que va faire Lucie Castagnole d'ailleurs.
Oui, mais alors c'est un désastre. Mais parce que elle, c'est une comédienne obsessionnelle et c'est son ultime création, comme elle dit, ce rôle. Parce que au départ, il s'agit une usurpation d'identité qu'elle propose pour aller récupérer les points. Mais cet enjeu dérisoire va se transformer très vite et elle va vouloir vraiment rendre sa mère à ce garçon avec tout le perfectionnisme obsessionnel d'une comédienne qui s'appuie sur tout, qui veut laisser parler la vérité du personnage en elle. Et puis cette femme qui n'a pas eu d'enfant dans la vie, C'est le moment ou jamais.
Voilà, jusqu'à la cuisine. Et il y a une petite curiosité, une petite erreur, Didier Van Kovelaert, dans votre livre. On en parle juste après les libraires. Suspense, avec la France et la Belgique, tout de suite. La France, c'est vous, Thomas Hausser. Vous avez aimé ce livre ?
Alors, moi je dirais, en préambule, Emmanuel, que vous venez nous présenter, Didier, un livre plutôt léger, qui se veut drôle et pour lequel il ne faut pas chercher forcément de la vraisemblance dans tous les personnages et dans toutes les situations. Alors, moi, dans le genre, c'est pas forcément mon truc, mais là, je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est bien mené, c'est assez réussi. Un petit suspense qui pointe le bout de son nez et qui nous tient jusqu'à la fin. Puis on se demande surtout comment notre héros va se dépeutrer de cette niçoise.
Ouais.
Voilà, un peu folle.
Très bien. À la Belgique, Déborah Damblon, vous avez adoré, je crois.
Ben oui. Moi, j'avais pas lu deux paragraphes de votre roman. J'étais déjà le sourire aux lèvres et puis un attachement, mais hors norme au personnage. Mais chapeau, chapeau, qu'est-ce que ça fait du bien. C'était chouette, c'était joyeux, c'était pétillant, c'était drôle, tendre, mais pas que. Et puis, vous nous bousculez dans un arc-en-ciel d'émotions. Trop bien. Mais là où vous êtes le plus fort, hein, c'est quand vous arrivez à faire de votre histoire gentiment farfelue, une réflexion authentique, juste, dont on ressort avec le sourire du début, mais aussi avec le cœur drôlement plus ouvert.
Voilà, vous avez séduit les libraires, Didier Van Kovelaert, avec ce roman. Une vraie mère, ou presque.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais.
Alors donc, une curiosité, Didier Van Kovelaert, une petite erreur aussi. Dans votre livre, il y a de la cuisine niçoise. Vous citez les raviolis à la daube, la tourte de blettes et pignons, et les beignets de fleurs de courge. Or, ce ne sont pas les fleurs de courge, mais de courgettes à Nice qu'on utilise.
Mais les Niçois disent fleurs de courge.
Ah bah non.
Ah bah si.
Ah bon ?
Ah bah oui.
C'est vrai ? Vous avez dit ça, vous ?
Mm-hmm.
Ouais. Alors c'est la fleur.
Ah oui,
j'ai cherché du coup. Il y a aussi les fleurs de courge, mais c'est plus rare. Mais les beignets sont effectivement des fleurs de courgettes.
Mais la recette originale, si on n'a pas la fleur de courge, mais que c'est toute l'aristocratie du plat. Non, ma mère était une... Jamais elle n'aurait employé le mot de fleur de courgette. Non, parce que c'était des choix sur l'origine du plat et tout. Ah oui, c'était... Au départ, c'est une horticultrice qui...
Ouais.
Et moi, j'ai grandi dans les fleurs. Toute ma passion pour les fleurs, les arbres, c'est venu de là. Et puis, il y a eu un problème avec son associé qui avait une malversation. Elle a perdu son entreprise. Et du coup, elle n'a plus que ses fourneaux pour régner et pour faire plaisir et pour être en même temps le centre du monde, le centre de la table. Et puis, elle portait ses plats, ce qui restait dans les hôpitaux. Elle voulait que tout le monde partage. Mais elle était totalement intraitable. Et notamment, ça me fait plaisir que vous évoquiez ce plat, parce qu'elle reprenait tous les restaurateurs qui disaient fleurs de courgette.
Mais
non, c'est pas ça.
Alors, c'est vrai que dans toutes les recettes qu'on trouve sur la cuisine niçoise, c'est fleurs de courgette. Mais pas chez votre mère.
Non.
D'accord. Bon, ça peut. Hein.
Et pas chez Jacques Médecin, qui est le premier à avoir fait publier.
Bonjour la référence, pardonnez-moi. Mais Jacques Médecin.
Sur le plan culinaire,
Et l'horreur politique, disons les choses.
C'est pour ça que je le cite au niveau culinaire.
C'est ça. Bon, Didier Van Kovelaert, ce roman, Une vraie mère ou presque, est aussi un livre autour du pouvoir des femmes sur leurs fils ou leurs compagnons. Votre personnage est partagé entre sa mère et sa compagne, sujet universel. Quand la mère est encore vivante, c'est difficile de construire une vie de couple avec une femme.
C'est-à-dire qu'entre ces deux femmes, il y a un antagonisme, mais qui n'est pas le rapport traditionnel avec la belle-mère, la belle-fille. Là, ce sont deux femmes qui sont au fond, très proche, trop proche. Deux caractères indépendants qui sont des chefs d'entreprise qui ont construit l'entreprise à partir de rien, dans des époques différentes. Et puis, il y en a une qui est en pleine ascension et l'autre qui a perdu. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que l'enjeu du garçon qui est entre elles. Mais on va découvrir dans le roman, ça, on n'en dira rien, mais la vraie teneur de leur rapport que lui va découvrir grâce à cette comédienne qui l'a laissé investir la peau de sa mère et qui va lui permettre de découvrir d'abord le vrai visage de cette mère à côté de laquelle il est souvent passé parce qu'elle était dans l'ombre d'un père ébouriffant, éblouissant et elle s'était donné le mauvais rôle nécessaire, c'est-à-dire le garde-fou, contre-feu, la doucheuse d'enthousiasme. Mmh. C'est ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Et c'est vrai que ce roman était destiné aussi, c'est pas une psychanalyse, mais c'est une tentative de réparation. J'étais injuste avec ma mère sur plein de points et j'avais besoin de... Mais pour ça, j'avais besoin du décalage romanesque pour pouvoir vraiment la remettre en vie, la remettre en situation et partager avec mon public ce qu'était sa véritable dimension.
Alors on va découvrir effectivement le vrai visage de votre mère, de la mère du narrateur, et une complicité inattendue avec sa belle-fille. C'est une belle histoire en tout cas, hein, Didier Van Kovelaert, pleine d'espoir, sous ses aspects loufoques. On pense au théâtre de boulevard quand on lit ce livre. Vous l'avez imaginé comme ça ?
Non, parce que c'est une comédienne qui a joué Phèdre à Beyrouth pendant la guerre, oui, au Liban, oui, qui a salué sous les obus. Et quand le narrateur lui dit, mais enfin, c'est dangereux d'usurper l'identité, là, bon, non, le rapport bénéfice-risque, moi, je serais en parler.
C'est ce que c'est. Oui.
Donc, c'est une risque-tout. Donc, si elle a des moyens, s'il y a des situations qui ressemblent à ce que vous appelez le théâtre de boulevard, qui est un théâtre d'efficacité mécanique, mais toujours fondé sur la détresse, les situations en détresse. Prenez les personnages de Fédot, de la Biche, mais c'est un cauchemar.
C'est ça, ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les gens dans un vrai cauchemar et de voir, il y a que le lecteur qui rigole. Et puis surtout, cette énergie de l'humour qui permet pour moi de faire cheminer l'émotion plus loin.
Merci beaucoup Didier Van Kovelaert. Une vraie mère ou presque est parue chez Albin Michel, un roman pour la détente en ce début de période estivale, à la campagne, à la plage et sous le soleil bien sûr. Il a fait rire en tout cas nos libraires. Merci Didier.
Merci.
On part en Afrique l'espace de 3 minutes avec la chanteuse Kadi Diarra dans la librairie francophone et on se retrouve en plateau avec Sylvie Germain et son nouveau roman qui fait l'événement en librairie. On écoute Kadi Diarra donc. C'était Kadi Diarra avec Faux Obiari.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et rebonjour Sylvie Germain.
Bonjour.
Votre nouveau roman, La puissance des ombres, est un roman sur le mal, le mal-être, le mal fait à autrui, la capacité que nous avons tous à faire du mal à quelqu'un. Le mal est en nous ?
Ah oui. Oui, il couve. Le bien aussi, hein. Il y a tout en nous. Je pense qu'il y a vraiment tout. Et après, ça dépend beaucoup, je pense, des événements, des circonstances, des conditions. Et chez certains, c'est plus l'un que l'autre qui va se révéler.
Alors, tout commence par une fête entre amis dans un immeuble. Gaspard va tomber du balcon sans raison, sans être trop saoul ni trop drogué. C'est ce que vous écrivez. On le retrouve écrasé en bas de la rue. On s'attend à une enquête policière, mais vous n'allez pas dans cette voie, Sylvie Germain. Le lecteur connaît le coupable dès le départ. Presque d'ailleurs.
Pas spécialement, non, on n'est pas obligé de le dire.
Non, on ne dit pas. Ça va vite quand même.
Oui, j'ai pas écrit un roman policier, pas spécialement évident au départ. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, en fait, c'est certains, comment on appelle, faits divers.
Oui.
Parce que ça passe dans les faits divers, des drames comme ceux de ces deux enfants. Et les crimes,
ils sont morts dans le train d'atterrissage.
Ça passe aussi dans ce qu'on appelle des faits divers. Moi, je suis à chaque fois étonnée, les faits divers, à chaque fois, je me dis, c'est du Shakespeare. Tout dépend ce qu'on en fait après. Et des drames de personnes qui, elles-mêmes, ont été victimes. Alors surtout quand c'est dans l'enfance, dans la jeunesse, c'est là où c'est le plus marquant, qui n'ont pas été aidés.
Oui, c'est ça.
Que personne n'a aidé pour essayer de les libérer d'un traumatisme, d'une blessure qui est restée inconsolée. C'est souvent des enfants inconsolés. Hein.
C'est ça. On va y venir, Sylvie Germain, sur ce sujet.
Et qui finalement passent à l'acte plus tard, un jour, qui répercute le mal qu'ils ont subi eux-mêmes.
C'est le déséquilibre. Alors, dans votre roman, pour juste raconter l'histoire, alors on va pas tout raconter, je vous rassure, ça va être compliqué, mais on va essayer. 4 mois plus tard, c'est un autre homme, Cyril, qui sera tué, poussé dans une rue escalier. Pourtant, ces deux victimes n'ont rien fait de mal, pour le coup. Ils étaient juste à cette soirée-là, en même temps. Vous allez dresser ainsi le portrait du meurtrier, je ne dirai pas le prénom, qui est habité par le mal et par son mal-être. Enfant, effectivement, il a vécu un traumatisme et il ne peut pas se remettre de ça, en fait. C'est impossible.
Je ne dirais pas qu'il est habité par le mal. Il est habité... On a tous des démons, en un sens. Mais il n'est pas habité par le mal, comme certaines personnes deviennent totalement perverses ou obsédées. Lui, c'est soudain des mots. Les mots, c'est extrêmement important. Et un mot, lui, dans un état de fatigue, un mot qui... Il entend ce que disent les autres, mais sans les écouter. Il entend. Et d'un coup, il y a un mot qui déclenche quelque chose. Parfois, un seul mot, comme vous parliez d'une image, d'une couleur qui peuvent déclencher, comme s'il y avait une cristallisation, vous voyez, autour parfois d'une scène. Souvent, les choses nous touchent. On entend parler de plein de choses terribles. Oui, c'est affreux, on se dit... Et soudain, on est touché, on est ému. Moi, je sais que ça m'arrive souvent à partir parfois d'un détail. Tout petit détail. Qui n'est pas spécialement la photo la plus terrible ou la mise en scène du malheur ou de la violence est le plus flagrant. Parfois, c'est un tout petit détail et c'est comme si c'était là que toute l'humanité qui est en faillite... dont vous parliez aussi.
Alors vous adressez à Marc-Alexandre Aubambé et à Fred Ebami qui sont en plateau avec nous. Si vous n'avez pas suivi le début de l'émission, il faut la retrouver en balado-diffusion podcast.
Voilà.
Et vous entendrez cette histoire.
Ah oui, ça vaut
histoire,
la peine d'entendre le début. Ouais. Et bref, ce personnage, non, c'est justement un homme tout à fait ordinaire. C'est un homme...
Alors, ordinaire en même temps.
Oui, c'est un homme ordinaire.
Vous allez très loin dans le pire, en fait, hein, Sylvie, parce que il y a sa mère, en fait, qui... va... Alors, je peux raconter quand même un petit peu ce qui lui est arrivé à cet homme-là, sans dire qui c'est ?
Oui.
Bon. Donc, sa sœur est morte, sa petite sœur est morte. Voilà, elle a été enlevée par un homme. Bref, elle a été violée, massacrée. Et donc, la maman donc de cette fillette, et donc la mère de votre personnage, ne s'en remettra jamais. Et lui va être rejeté par son père. Son père n'en veut pas, donc il part en internat. La mère utilise des calmants et de l'alcool pour essayer de surmonter ce drame, sauf qu'elle va mourir aussi. Donc c'est le drame absolu pour ce gamin-là.
Oui, mais souvent quand un extrême malheur, parce que c'est vraiment l'extrême malheur par excellence, que la mort d'un enfant, et surtout dans ces conditions-là, fatalement, les parents ou la fratrie, tout le monde est touché et quelque chose s'effondre. Et je vous dis, c'était pour avoir lu un énième article sur... un gamin qui lui-même avait été comme ça impliqué parce que simplement présent, il n'avait pas pu défendre sa petite sœur, mais comment aurait-il pu, pauvre enfant ? Et le mélange après de culpabilité, il y a à la fois c'est le ça. Deuil, la culpabilité, plus voir la dégradation familiale, tout ça, ça met en germe un mal-être colossal. Mmh. Et il suffit, voilà, de trois fois rien, parfois pour nous émouvoir, parfois pour nous émerveiller, mais parfois pour nous faire basculer et perdre, comme perdre la raison.
Alors, on va partir en Belgique avec Déborah Damblon. Vous avez lu le roman de Sylvie Germain.
Je l'ai lu, et je ne vous cache pas que dans les premières pages, j'ai été déstabilisée par votre entrée en matière faussement légère et volubile. Et après, c'est comme Gaspard qui bascule, on est plongé dans un roman de Sylvie Germain, et vous nous faites évoluer sur le fil de l'ombre, sur le fil de toutes les ombres. Et plus le récit se précise, moins notre position à nous, le lecteur, est aisée, parce que, sans y vous gâcher la fin bien sûr, mais rien n'est simple, et vous nous le démontrez avec votre puissance littéraire habituelle.
Sans divulgâcher la fin, attention, Mike Vienno au Québec.
Oui, ce roman n'est pas un thriller, mais il révèle la part d'ombre des gens. Ce roman n'est pas un récit léger, car il se développe tout en lourdeur et en complexité. Sylvie Germain nous démontre que parfois les apparences sont bien plus que trompeuses. Elles camouflent toute la réalité et par petites touches accumulatrices, des soupçons, de craintes, de doutes, les ombres viennent envahir le roman, qui passe de la légèreté et frivolité de la fête initiale à une rudesse, à une brutalité vers la fin.
Voilà. Sans tout raconter, ça va, Sylvie?
Les gens disent ce qu'ils veulent.
Bon, vous montrez aussi en toile de fond la responsabilité des parents. Un parent qui peut détruire la vie de son enfant, soit par une négligence qui entraîne des événements horribles, c'est ce qui s'est passé avec lui, soit par un abandon. Il y a ce sujet, en fait, qu'on aborde peu, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la maltraitance physique, qui est condamnable, elle, qu'on ne peut pas détruire la vie de son enfant.
Ah bah bien sûr, la maltraitance psychologique, affective, elle est aussi mortifère que celle physique, parfois presque pire.
Et alors par extension, Sylvie Germain, on peut donc se dire à travers le personnage de Dix que le déséquilibre mental est directement lié à notre éducation alors.
J'irai pas jusque là. Comme dans le roman, d'ailleurs, je ne porte pas de jugement. En fait, ce qui m'intéressait, c'était moins la genèse, qui est finalement assez banale, hein, que ce phénomène de la répercussion du mal. J'avais un titre que j'aurais bien aimé prendre, il était déjà pris par Audi Berthi, c'est « Le mal court ». Oui, le mal court. Et il se répercute surtout. La preuve, quand on parlait de ces enfants qui vont fuir leur pays dans des conditions insensées, pour fuir quoi? Pour fuir la misère. C'est pour fuir la misère. Là, j'en reviens au livre dont on a parlé au tout début. Et là aussi, on voit comment le mal court et finalement, la misère les rattrape, que l'injustice les rattrape. Et c'est comme ça tout le temps. Et là, avec les guerres dont on nous parle actuellement, en l'occurrence, on oublie un peu celle qui s'est passée en Syrie, qui n'est pas vraiment finie, et dans tant de pays, dont aussi en Afrique. Bon, ce qui se passe là au cœur de l'Europe, on va dire, côté Est. Tous ces gens, les rescapés des horreurs commises en ce moment, vous pensez bien que sur le lot, dans les années qui viendront, combien seront détruits, et puis tous ceux qui vont crier vengeance. C'est ça le problème. Quand on entend des témoignages, parce qu'on a l'impression que cette guerre, on la vit en direct, quand on entend des témoignages que des gens se sont engagés, ils étaient quoi? Ils étaient informaticiens, ils étaient commerçants, ils étaient profs de philo, ils n'avaient jamais porté d'armes. Là, ils défendent leur pays, il y a urgence, sauf qui peut la vie, sauf qui peut leur pays. Ils voient des destructions totales de leur pays, ils voient des morts autour d'eux et des atrocités commises. Et souvent, on les entend, ils disent « maintenant j'ai la haine
». Ah oui.
Ils disaient avant, c'est des cousins, c'est des frères les Russes, et maintenant on a la haine. Et c'est ça qui est grave.
C'est-à-dire que quand il y a le mal, Sylvie Germain, c'est ce que vous expliquez, quand il y a le mal, quand un mal est fait, il y a des dommages collatéraux, il y a des conséquences collatérales. Et on le voit dans votre livre d'ailleurs, avec l'exemple d'un chat, là aussi je m'arrête à, je vais pas trop en dire, mais l'exemple d'un chat et puis du fils de Gaspard aussi. Parce que le petit, il a perdu son papa. Donc il y a toujours le mal qui rebondit ailleurs.
Oui, le mal court.
Oui, c'est ça.
Il court, il rebondit, il se transforme. C'était plutôt ça, en fait, ce qui me tourmentait. Mmh. Voilà, c'était ça. Et en même temps, je ne porte pas de jugement, même sur ce personnage qui est un gars ordinaire. Il n'était pas habité par le mal, il est habité plutôt par un tel mal-être. Et soudain, oui, c'est comme si quelques mots mal compris. Il a pris au premier degré des choses qu'il entend et qui étaient dites dans des discussions plutôt de bobos.
Oui, ça le pousse à
lui,
commettre.
Soudain, ça, c'est plutôt que ces mots-là, d'un coup, réveillent quelque chose qui était profondément enfoui. Voilà. Et là, il perd la raison. Voilà. Et après, il n'assume plus ses actes. Quand il prend mesure de l'absurdité de ce qu'il a fait, il n'assume plus.
Et à la fin du roman, il y a une simple petite phrase. Vous parlez d'un détail, Sylvie Germain, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai lu votre livre. Une simple petite phrase prononcée par l'oncle, des mots tout simples qui disent tout, qui résument tout et qui nous tirent les larmes. Et ça, c'est le talent de l'écrivain, de la grande écrivaine que vous êtes, parce qu'avec cette petite phrase de fin, vous avez tout résumé, vous avez tout dit.
C'est quoi la petite phrase ?
J'ai le droit de le dire ou pas ?
Mais oui.
Parce que je sais plus du coup. Vous dites, je suis là, mon garçon, je suis là, n'aie plus mal, va, va.
Oui, parfois, il y a des gens, il ne faut plus leur tenir.
Mais il faut avoir lu le livre pour être ému par cette phrase.
Quand on parle toujours de la souffrance physique et des fins de vie, qu'il faudrait aider des gens à partir quand ils sont dans une, en fin de vie vraiment. Mais parfois, il y a des gens dans une telle détresse intérieure et morale, l'autre comprend qu'il ne pourra plus l'aider et qu'il ne peut pas le faire revenir. Donc, à la limite, oui, va.
Va. Merci beaucoup Sylvie Germain. Merci pour cette participation à cette émission. Une nouvelle fois, La puissance des ombres est parue chez Albin Michel. Bonne chance pour ce roman Sylvie,
merci.
À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Allez, on termine avec les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. Pour conclure, ça va saigner peut-être. Un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressot, tout calme pour l'instant.
Oui, c'est sur D'Herborance de Fabien Ménor aux éditions Helvétique. C'est une très belle BD qui reprend le roman célèbre de Charles Ferdinand Ramu, paru en 1934. Et cet auteur s'était inspiré d'un fait réel, l'éboulement d'une montagne au Diableret en 1714. Et au-delà des dessins splendides à l'angle de Chine, les contrastes qui rendent à merveille la fragilité des humains devant les blocs de rochers, c'est étonnamment actuel, parce que les montagnes pourraient bien s'écrouler à présent, et nous sommes toujours aussi démunis devant la force de la nature.
D'Herborance, donc, de Fabien Ménor aux éditions Helvétique. Merci Dominique Thomas Auxerre pour la France. Un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule contre Daniel Pénac.
Ah non.
Ah si.
Ah non.
Ah bah si, Emmanuel.
Ah
si, 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 si. Mais je vais vous dire
pourquoi.
On m'a
fait Ruffin déjà, maintenant Pénac, c'est pas possible.
Je vais vous le faire quand même. Alors en fait, pour compléter, c'est un coup de gueule contre Daniel Pénac, mais surtout pour sa faculté qu'a ce très bon auteur de lire beaucoup et de recommander ses livres. Alors ça, je crois que les éditeurs l'ont bien compris. Et pour tout vous dire, tous les mois, on a droit à une nouveauté avec une préface ou un petit mot de sur le bandeau de son cru. Je prends au hasard. Quand l'hypnose soigne les médecins, chez Flammarion, préface Daniel Pénac. 84 Charing Cross Road, chez Autrement, préface Daniel Pénac. Le chien de Bergson, aux éditions Premier Parallèle, avec le petit bandeau, à mon humble vie, il faut croire ce chien, signé, vous l'aurez compris, Daniel Pénac.
Très bien.
Alors, nous, on adore, mais là, on commence à avoir plus de mots.
Il y en a trop,
de...
quoi. On lui en demande trop, le pauvre. Si
on a plus de mots de Daniel Pénac sur notre table que de mots de nos libraires. Alors, nous, ça nous fait bien marrer, mais bravo.
On va passer à Sylvie Germain ou Didier Van de Kovelaert. Hein, faut faire des préfaces, Didier. Qu'est-ce que vous attendez, vous ?
Eh oui,
vous êtes bon pour ça, en plus.
Oui, enfin, j'écris d'abord le livre et après on voit la préface.
Allez, ok, merci Thomas. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, un coup de cœur pour un roman-récit qui s'appelle L'Apocalypse heureuse et qui est écrit par Stéphane Lambert, qui pourrait être un énième auteur de plus à nous raconter l'abus dont il a été victime enfant.
Sylvie Germain applaudit votre choix, je le dis au passage.
Voilà, merci Sylvie, merci pour lui. Mais si lui se sauve du traumatisme en écrivant, eh bien, il parvient aussi à nous entraîner, nous qui lisons, vers la lumière. Et si le chemin est âpre, eh bien, c'est beau, c'est fort, c'est important, et c'est à lire, mais vraiment, n'est-ce pas, Sylvie ?
C'est un très bel auteur, surtout. Il faut lire tous ses autres livres sur la peinture. C'est un très, très bel auteur.
Je confirme, auteur bruxellois, en plus. Oui. Et son titre, donc, le nouveau, c'est L'Apocalypse heureuse aux éditions Arléa. Merci beaucoup, Déborah. Un coup de gueule au Canada. Mike Viennot pour conclure.
Oui, je m'adresse cette semaine aux éditeurs. Il faut arrêter de changer les titres des livres. Quand un titre se nomme « Dark Secret » et qu'il devient « Celui qui n'était pas un meurtrier » parce qu'on change d'éditeur, soit dit en passant, les tomes 2 et 3 ne changent pas de nom, eux. Mm-hmm. Ou quand un roman en grand format se titre « Baiser ou faire des films » et qui se transforme en « Femme d'été, femme d'hiver » lorsqu'il sort en format poche, il y a de quoi se questionner. Ça brouille les libraires et ça bouille, et les lecteurs, surtout les lecteurs. Alors, quand on a plus de 3 clients dans la même semaine, qui ramène le livre en disant « Je l'ai déjà lu, ce livre, il ne s'appelle plus de la même façon. » C'est pas marrant. Il faut cesser, sinon on nommera nous-mêmes vos livres.
Bon, le premier exemple, excusez-moi, hein, Mike, mais c'était un titre en anglais transformé en français. Ça, c'est bien quand même.
Oui, mais quand
même. Même si on transforme le sens, on s'en fiche. Ça reste francophone.
Oui, d'accord, hein? Mais okay. Les clients, eux, ont lu un livre.
Mais bien sûr. Bon. Ouais, voilà. Calmez-vous, Mike, tout va bien. Bon, le message est passé.
D'accord, merci.
Merci à vous, merci Mike. Avant de conclure, on écoute le son de l'Outre-mer avec le bassiste Stéphane Castry, entouré de 40 artistes de la Guadeloupe au profit d'une ONG qui œuvre pour la jeunesse.
Pas première fois ça arrivait, l'espoir qu'a les vegas oulés. Fais nous descendre dans la rue, ni assez nous voulons ça changer, je dis faut nous réunir. Et de chaque fois ça arrivait, violence qu'a essayé, fais nous payer.
Divisé, fermé, bouchon, nous ni assez nous voulons ça changer, et je dis ok, prends nous.
Poussière assis l'en mer, anti-point assis planisphère.
Même si pays n'a pas con,
nous devons compter avec nous, garder nous bien, nous c'est des géants.
Que nous obligez peinture, ou que nous choisir été. Ça nous y est petit en nous, car jamais nous y vont vanter, nous capiller, nous pas qu'à casser.
Soit on nous t'imbaque. Fais-nous oublier, éviter à s'allouer, on t'a la maman.
C'était un extrait de Pamoli, interprété par 40 artistes de la Guadeloupe. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Alexandre Chenet. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère de France Inter et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons à La Réunion pour une séquence spéciale au salon Athéna de Saint-Pierre avec la Camerounaise Jaïli Amadou Amal et la Réunionnaise Gaëlle Bellem, entre autres. Bonne semaine, bon week-end à tous. À bientôt. Et n'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole de Didier Van Kovelaert. À suivre Barbatruc autour des fruits et légumes pour les enfants.